France Culture.
Bonjour le Book Club.
Bonjour le Book Club.
Bonjour le Book Club.
La peinture a ceci de commun avec la littérature. Tout sujet, entre guillemets, est un prétexte à faire ce que j'appelais de la littérature, de la peinture, c'est-à-dire des harmonies de couleurs et de formes pour la peinture, des harmonies de mots, d'ensemble de mots pour la littérature.
Bonjour le Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Claude Simon, l'un des écrivains majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, voit son œuvre saluée par le prix Nobel en 1985. 40 ans plus tôt, il commence d'écrire La Corde Raide, texte paru en 1947 où apparaissent par éclat et dans une forme de montage dont Simon sera ensuite si familier, des souvenirs, la ville de Barcelone pendant la guerre d'Espagne, la débâcle de 1940. Claude Simon est mort il y a 20 ans, les éditions de Minuit rééditent deux romans de jeunesse réunis pour la première fois dans un seul volume. Nous en parlons avec une grande spécialiste de sa vie et de son œuvre, Mireille Kahl-Gruber, et un de ses lecteurs amateurs, le romancier Sylvain Prudhomme. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Nicole Vulser qui a éclairé pour nous toute cette saison les aspects économiques du monde des livres. Aujourd'hui, elle nous parle de la figure de l'agent littéraire, fervent défenseur des autoristes, dit-elle. Et en fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. J'ai l'impression qu'on est encore ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Mireille Kahl-Gruber.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Vous êtes théoricienne du roman, de l'esthétique, des croisés pluridisciplinaires. Vous êtes aussi écrivaine. Vous avez publié une biographie de Claude Simon, Une vie à écrire. C'était paru en 2011 au Seuil. Et un deuxième tome de cette biographie, Claude Simon, être peintre, en 2021 aux éditions Hermann. Merci beaucoup d'être là pour évoquer ces deux textes
de
jeunesse et surtout La Corde Raide, sur laquelle on a particulièrement travaillé. Bonjour Sylvain Prudhomme.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, romancier. Vous avez publié Coyote aux éditions de Minuit. Merci beaucoup de venir nous parler de votre lecture de Claude Simon, qui a été marquante à plusieurs égards, paraît-il. On va l'évoquer. On va commencer par aborder des aspects biographiques de la vie de Claude Simon. C'est lui-même qui ouvre le bal dans cette archive de 1988 au micro d'Alain Weinstein.
J'ai été à Barcelone, j'ai été témoin de la Révolution au mois de septembre 1936, mais je n'ai pas combattu. À la guerre de 40, là, j'étais aux premières loges. Là, j'étais dans un régiment de cavalerie à cheval. J'étais prisonnier, j'ai su ce que c'était la fin. Quelque chose d'absolument angoissant, qui ne peut pas se laisser oublier une minute dans la journée. La maladie, ensuite, oui, j'ai fait une grave tuberculose et j'ai été pendant des mois cloué sur un lit. Ça m'a beaucoup appris aussi. Et la mort, à la guerre, elle est proche. Pourquoi est-ce que le camarade qui est à un mètre de vous pointe une giclée de mitrailleuse dans la figure et pourquoi on ne la prend pas, ça c'est vraiment la chance.
La voix de Claude Simon pour ouvrir cette émission qui lui est consacrée, en tout cas consacrée à ce roman de jeunesse qu'est La Corde Raide. Il naît en 1913, Claude Simon, ici au micro d'Alain Weinstein. Il commence par Barcelone et par la guerre. Pourquoi est-ce que c'est important de mentionner ces grandes étapes biographiques quand on s'apprête à parler ensemble de La Corde Raide?
C'est important parce que La Corde Raide est publiée en 1947 et donc écrite juste après la guerre et que Claude Simon a été traversé par tous les grands événements et a côtoyé la mort et que il écrit en survivant. Il a vraiment le sentiment d'être un survivant de son escadron, certes, puisque, comme il le dit là dans cette archive, il a réchappé à la mort parce qu'il y a eu un accident de cheval, disons que son étrier s'est retourné et qu'il est tombé au moment où tous les autres se faisaient descendre parce qu'ils avaient obéi à l'ordre d'être en selle. Donc c'est vraiment le hasard qui a fait qu'il a survécu. Mais il est déjà le survivant de ce père héroïque qu'il ne connaîtra pas. Il est le survivant de sa mère qui meurt sous ses yeux d'un cancer quand il a 11 ans. Voilà, donc et sans arrêt, il va avoir le sentiment d'être poursuivi par la mort, d'être le spectateur de la mort, et toutefois de toujours en réchapper, d'être parce qu'il y a en lui cette sorte de vitalité, de croyance en la vie que l'on trouve dans toute son œuvre, dans ses phrases pleines de souffle qui s'interrompent mais qui reprennent. Et je crois que c'est cette forme qu'il cherche à donner à la mort par l'écriture, par cette expérience terrible, mais aussi Par exemple, on parle de la mort, de la mort héroïque, de la mort ou de la mort qu'on ne voit pas venir, mais pour lui, peut-être qu'une des morts les plus tragiques, c'est la mort du cheval. Il a assisté, il dit qu'il a soigné un cheval pendant 2 jours, qui mourait sous ses yeux, qui est mort, et que c'est ainsi, dit-il, qu'on comprend ce qui est essentiel dans la vie. Et qu'est-ce qu'il va décrire ? La mousse qui se trouve sur les pierres du pont et qui est toute picotée, et il décrit toutes les couleurs de la mousse, et il décrit comment le vent rebrousse l'eau du ruisseau et la ramène à sa source, dit-il. Autrement dit, cette sorte d'effet mascaré, de vitalité mascarée de l'œuvre qui peut sans cesse, comme la nature, revenir à sa source régénérée et recommencer. Et pour lui, la nature a vraiment eu cette force-là.
On y reviendra, mais j'ai l'impression aussi, en vous écoutant Mireille Kallgruber, que, et en lisant La corde raide, que la mort, peut-être la pire, c'est celle du cheval, ou celle des camarades, celle à laquelle on réchappe par hasard, celle de la mère. Mais il y a aussi la mort de celui qui ne s'adonne pas à ce qu'il doit être, à ce qu'il doit créer, à ce qu'il doit vivre, à la mort du désir. Il y a quelque chose aussi du cœur qui bat, au sens de la vitalité, vous l'avez dit, qui, si elle s'abandonne, c'est comme une sorte de mort. On peut être vivant, mais on est mort.
Il disait faire. J'ai envie de faire. Or, pour lui, faire, c'est poiein, c'est le mot grec qui veut dire fabriquer, mais faire poétique aussi, faire justement avec les mots, avec la langue. Et effectivement, pour lui, c'est le désir de faire. C'est pas tant faire quoi, mais faire comment, d'abord, et puis surtout fabriquer quelque chose.
Oui, il parle de l'ouvrier qui fabrique sa table, il y a quelque chose de très fort de ce côté-là. Il évoque aussi dans cette archive le vécu de la maladie, la tuberculose, mais aussi la faim qu'on n'oublie jamais. On a coupé ce petit passage où il se remémore l'idée d'un rat qui vous dévore en permanence le ventre. Est-ce que ça, c'est intéressant aussi de l'avoir en tête pour les lectures qu'on va effectuer par la suite ? Ce vécu presque physiologique.
Oui, le vécu physiologique, c'est très important parce que chez Claude Simon, tout passe par l'essence, par la sensorialité, par la sensualité, par toutes les impressions qu'il reçoit. Il dit « je reçois un magma d'émotions ». Et mon travail d'écrivain, c'est de lui donner une forme de, et la forme, c'est pas tant la signification, mais ce sont tous ces petits mots, et, comme, comment, comme si, et alors, qui font la structure et qui font la dynamique, la rythmique de l'écriture, comme du tableau du peintre d'ailleurs, c'est pareil.
On y viendra et ça fait en effet une présence très très importante du geste de la peinture, de la peinture elle-même, de la pensée de la peinture dans La corde raide. On est en 1945 quand il commence à rédiger La corde raide, je l'ai signalé, il est né en 1913. À quel moment intervient l'écriture dans sa vie ? C'est quoi la vie de Claude Simon qui le mène à écrire comme il écrira ?
Alors, il écrit très vite, d'une certaine manière. Donc, il sort de collège Stanislas au début des années 30. Et là, alors que sa famille souhaiterait qu'il fasse des études sérieuses, entre guillemets, lui s'inscrit aux Beaux-Arts et va commencer donc une activité de peintre. Mais il va être surtout un peintre autodidacte. Il apprend la peinture dans les musées. Il apprend la peinture à partir des émotions qu'il ressent face à des tableaux, en se demandant, mais Cézanne, pourquoi Cézanne, pourquoi Picasso me donne cette émotion que je n'ai pas ailleurs. Donc, alors qu'il est en train de peindre, et il est d'abord peintre, et il sera peintre, on a beaucoup trop minimisé cette période-là. Il a été peintre pendant plus de 20 ans, quand même. Et avec la même force, le même enthousiasme qu'il aura ensuite pour l'écriture. Et il va commencer à écrire au milieu des années 30, 35, 36. Il fait en même temps de la photo. Il fait un peu, c'est un plasticien, disons, qui aime les formes, qui aime les couleurs, surtout. Pour lui, c'est pas le dessin qui compte, c'est la couleur. Ce sont les couleurs qui donnent des formes. Et donc, il va commencer à écrire. Il dira qu'il a tout déchiré parce qu'il écrivait comme Giraudoux et que c'était vraiment ridicule et risible.
Sympa.
Oui. C'était du pseudo Giraudoux, en tout cas pour lui. Et il va commencer à écrire Le Tricheur. Juste avant la guerre, il a pratiquement terminé, quand il est donc appelé, et il ne finira qu'en 41, après s'être évadé du camp où il a été prisonnier. Et je veux revenir un moment sur ce que vous disiez du camp. C'était très important, en effet, cette expérience non seulement de la faim, mais de l'humiliation. Il a été complètement détruit par ces quelques mois de captivité où il a perdu, il avait l'impression de perdre toute dignité humaine. C'est surtout ça qui l'a énormément dévasté.
Et qui en... Mais alors, ce qui est intéressant quand même, quand on s'apprête à parler de ses premiers textes publiés, c'est que on décrit un enfant qui n'a pas connu son père, ne connaîtra pas son père, perd sa mère quand il a 11 ans, connaît les deux guerres qui agitent l'Europe, et, y compris la guerre d'Espagne, se fait, manque la mort par hasard, dit-il, ou par chance, se fait emprisonner, connaît l'humiliation, la destruction de la dignité, le corps abîmé par la maladie. Et c'est un homme qui va consacrer sa vie à l'art, à la poésie, au sentiment puissant de la vitalité, au rapport à l'amour, au désir, à la nature.
Oui, c'est parfaitement le tableau que vous décrivez, c'est exactement ça, c'est Claude Simon. Il est à la fois celui qui est toujours obsédé par ses expériences mortifères et mortelles.
Mais donc il y a quelque chose qui n'est pas décrit, mais, qui n'est pas détruit fondamentalement.
Mais qui n'est pas détruit, pas du tout. Et au contraire, ce qui le fait résister, ce qui lui donne cette force, alors qu'il est prisonnier, même alors qu'il est donc dans cette guerre où il ne sait pas très bien ce qui se passe, il continue, dans ses carnets, il continue à noter les couleurs pour les tableaux qu'il va faire. Il continue à écrire son roman, le premier, le tricheur, qui s'appelle à ce moment-là Messe des morts, surtout en référence à Dostoïevski et au souvenir de la maison des morts. Mais je veux dire, il continue à écrire, il continue et il a toujours le sentiment, il écrit à sa compagne, je suis sûre que je m'en sortirai, c'est la vie qui va l'emporter quand même. Et plusieurs fois, il dit, il l'a écrit aussi, quand je me suis trouvée dans des situations aussi terribles, je remettais une certaine distance entre moi, et, en me disant, je me remets à ma place, qui est minuscule, mais la terre continue à tourner, les papillons continuent à voler, les femmes continuent à être désirables, et ça, c'est cette force-là, c'est-à-dire quelque chose qui est plus grand que soi, qui le dépasse et qu'il retrouve, évidemment, il cherche et qu'il trouve dans l'art.
Et dans la littérature, c'est aussi comme ça que se termine la corde raide, c'est-à-dire c'est aussi la corde raide très existentielle, le vertige d'exister, l'immense difficulté d'exister, et l'idée que y arriver, c'est quand même participer d'un autre vertige, mais celui-ci joyeux, on entendra tout à l'heure un extrait du texte, mais c'est plus qu'un homme, c'est plus que la figure d'un homme, il y a quelque chose qui réussit à être plus grand que l'individualité.
Parce qu'il arrive à intégrer toutes les forces, quand il dit « je » et « d'autres » dans le livre, c'est d'autres parfums, d'autres vies qui ne sont pas les humains, qui sont les animaux, le végétal. Il est extrêmement sensible au végétal. Il dit toujours que la période la plus heureuse de sa vie, c'est quand il s'est échappé. Il avait été rapatrié dans un camp en Dernos, quand il s'est échappé et qu'il est resté quelques semaines dans la forêt à errer. Et là, il était un peu comme un homme premier, un homme primitif, et il a adoré, il se sentait d'une liberté complète, et il faisait corps avec la nature, il y avait ce côté organique avec le monde.
Il y a une image de la fin qu'on évoquait juste avant que le rouge antenne ne s'allume, qui est vraiment un devenir arbre de Claude Simon, qui peut rejoindre des pensées écologiques très ferventes du XXIe siècle. Quand est-ce que vous découvrez son œuvre, Mireille Calgrebeur?
Alors moi, je l'ai découvert alors que j'étais à l'université, et je l'ai découvert avec Le Vent.
Qui est considéré par lui comme son premier texte.
Son premier. Bon, c'était par hasard, je savais pas du tout. Et moi, j'ai été stupéfaite parce que à l'université, on n'étudiait pas les vivants, de toute façon. On étudiait que les écrivains qui étaient décédés. Et donc, c'était marginal. Et j'étais renversée parce que ça racontait pas, mais ça vibrait. Les mots se développaient. Il y avait des épiphanies à tout moment. C'était des instants. C'était une sorte de passage au crible de la grammaire ou de la syntaxe. Il y avait ce phrasé incroyable. Et je voyais, mais vraiment littéralement, la phrase qui rêvait et qui avançait sur des énigmes. Et ça, du coup, j'ai fait une thèse là-dessus, sur la poétique du récit, et donc je suis partie là-dessus. Et quand le grand bonheur, c'est quand je l'ai envoyé à Claude Simon et qu'il m'a répondu, et qu'a commencé une correspondance entre nous et des affinités littéraires qui ne se sont jamais démenties. Ensuite, ça a été une véritable amitié littéraire.
C'est beau. Quelques années plus tard, ça vous amène à signer le texte de présentation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de cette édition qui rassemble Le Tricheur et la Corde Raide aux éditions de Minuit. Édition de Minuit où vous publiez désormais vos textes, Sylvain Prudhomme. Le dernier, c'est Coyote. Vous avez été reçu sur la chaîne, sur France Culture, pour parler de ce texte. Je renvoie nos auditeurs et auditrices à ces émissions pour vous entendre en parler. Ce ne sera pas le sujet du jour, mais vous, quand est-ce que vous découvrez l'œuvre de Claude Simon?
Alors moi, ça se passe. Je suis à ce moment-là étudiant justement à la Sorbonne Nouvelle, et j'adorais les textes de Francis Ponge, et j'étais devenu très ami avec un professeur d'université qui n'était pas à la Sorbonne Nouvelle, mais qui s'appelait Bernard Weck, et qui était spécialiste de Ponge. Et c'est lui qui m'a dit, mais si t'aimes Ponge, tu devrais lire Claude Simon. Et j'ai commencé par La Route des Flandres, et j'ai vécu ce choc que je crois vivent beaucoup de gens qui découvrent cette œuvre. Enfin voilà, comme de l'entrée dans un monde où tout d'un coup tout existe avec quelque chose de très plein, comme si jamais il y avait on avait des yeux avec un appareillage
optique
décuplé, quoi, où tout je sais pas, comme peut-être en photo ou en cinéma, quand on change de technique, tout d'un coup on a le monde qui se révèle avec une intensité encore plus grande, comme un vrai saut comme ça dans l'intensité de ce que je voyais, dans la densité de monde qui était charriée par l'écriture. Et je me rappelle avoir été complètement fasciné. Donc après j'ai fait ma maîtrise, à l'époque ça s'appelait encore maîtrise DEA, tout ça, sur Claude Simon, j'étais ravi de lire la corde raide, que j'avais jamais lu, parce qu'à la fin il y a le motif de la mort du colonel. C'est un des épisodes traumatiques pour lui. Il est obligé de suivre son colonel qui se rend pas, alors qu'ils sont ils vont mourir, on va leur tirer dessus d'une seconde à l'autre, et il doit continuer de le suivre. Et c'est un motif qui revient partout dans son œuvre ensuite, et ça aussi,
c'est, et c'était là-dessus que vous aviez travaillé.
Oui, moi je travaillais sur ce motif dans plein de ses livres, parce qu'il ne cesse de réécrire cette scène, qui est une scène c'est un des noyaux. C'est ça aussi qui est fascinant avec Claude Simon, c'est que tout surgit avec une nécessité infinie. C'est ça aussi, je crois, qui me touchait très fort, c'est que il ne cesse de revenir à des moments de sa vie qui le hantent, c'est ce qu'il disait on peut pas ne pas y penser à chaque instant, à l'imminence de la mort, au fait d'avoir vécu ça. Et donc, il y a une sorte d'entêtement à essayer de comprendre ce qui a été vécu à ce moment-là. Il ne cesse de dire pourquoi et qu'est-ce que c'était,
pourquoi. Mais ce serait comme ça que travaillerait son œuvre de manière générale, et c'est donc intéressant d'avoir sous les yeux les deux premiers textes publiés, c'est-à-dire des noyaux. Lui, il dit des thèmes mais pas des sujets, des espèces de matières comme ça première qui va ensuite être rediluée, retravaillée dans différents textes.
Oui, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mireille pourrait le dire mieux que moi, mais en tout cas, c'est ça qui me fascine, c'est qu'on sent qu'il y a une aimantation. Il y a un besoin obsessionnel de revenir à certains moments. Il y a la guerre d'Espagne, les moments dans le camp de prisonniers, la fuite du camp, le moment où il est dans le fossé, où il y a un moment aussi où il s'enfuit sur une voie ferrée, enfin sur le ballast comme ça, et il y a des gens qui lui tirent dans le dos, des soldats allemands qui tirent dans son dos, et il pense à nouveau là qu'il va mourir. Et tous ces moments là on les reconnaît quand on a lu plusieurs livres, on sent qu'on est en train d'arriver à nouveau dans cette scène là mais ce qui est très beau, c'est que on sent qu'il y retourne, parce que c'est, il faut retraverser à nouveau ça, il faut le revivre, il faut en refaire l'expérience, et pour moi c'est ça la... Enfin, c'était aussi, je crois, au moment où j'ai découvert ça, une sorte de leçon de ce que pouvait être de plus important la littérature, en fait, parce que c'est la nécessité est absolue. Il faut y retourner. La vie et la littérature s'entremêlent absolument. Et donc, plein de choses peuvent paraître gratuites à côté de ça. Et je me disais, non, ça, c'est... Et avec une exigence de vérité absolue, de rien lâcher de ce qui a été vécu, de ce qui a été senti.
Mireille Calrubert.
Oui, je pense que Sylvain dit quelque chose de très juste, que je formulerai peut-être un peu autrement. Claude Simon écrit toujours au présent de l'écriture. Pour lui, c'est très important. C'est pas des souvenirs passés.
C'est exactement ce que j'allais... Parce qu'en écoutant Sylvain Prudhomme, je me disais, mais alors du coup, il n'y a rien eu de contemporain. Si la langue, en fait, si l'écriture, c'est ça.
C'est comme le peintre. Le peintre, il est sur sa toile. Et tout se passe là. Et Claude Simon transpose ça, et il est sur sa page d'écriture. Et c'est là que ça se passe. Et je me souviens, il était super content quand j'ai parlé de l'Acacia, en faisant référence à Augustin, qui dit, il n'y a pas le passé, le présent, le futur dans une continuité habituelle, conventionnelle, mais il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se repasse de nouveau là, si bien que c'est jamais la même chose. Et que c'est toujours, parce que puisqu'il travaille par, vous disiez effectivement, par motif ou par tableau détaché, comme il disait en se référant à Flaubert, en disant, ben, j'ai qu'une ligne d'écriture et il faut que je raconte plein de choses à la fois. C'est cette simultanéité spontanéité qu'il essaie de rendre, donc en faisant des compositions, des assemblages, et évidemment, dès qu'on déplace une proximité, un assemblage, ça change tout. Mmh. Et donc, c'est de plus en plus audacieux, je sais pas ce que vous en pensez, ce que t'en penses, Sylvain, mais il semble que c'est de plus en plus audacieux, sa manière de composer.
Plus le temps passe dans l'œuvre, vous diriez?
Oui, plus le temps passe, et par exemple, dans Le Jardin des Plantes, il se permet de découper le texte, pas selon les significations, mais carrément de donner des coups de ciseaux.
Parce que pour être très honnête, moi qui ai essayé avec beaucoup de désir et d'entrain et d'envie La Route des Flandres, et je sais que j'y reviendrai, j'y suis venue plusieurs fois, mais j'ai eu des difficultés. Alors que là, j'ai pas eu de difficultés. J'ai trouvé, pour parler hyper clairement, que c'était un texte facile à lire, quoi. La Route des Flandres, au stade où j'en suis dans ma vie de lectrice, me résiste encore. Est-ce que vous diriez que La Corde Raide est quand même un peu plus accessible que le reste de ces textes ultérieurs?
Je dirais.
J'ai le droit de dire ça ou pas?
Oui, vous avez tous les droits, de toute façon, parce que c'est le droit de la lectrice et.
Voilà. Je dis vraiment là où j'en suis, moi.
Absolument.
Mais j'ai très envie.
Je pense que c'est tout aussi facile, entre guillemets, de lire L'Acacia ou Le Tramway, qui sont parmi ses derniers livres. Okay. Vous voyez.
Donc il n'y a pas de rapport avec l'idée d'une continuité?
Moi, je pense pas. Okay. Je pense qu'on peut prendre n'importe où. C'est pas le problème. Par contre, moi, je suis assez d'accord avec vous. Je suis toujours étonnée que on trouve que La Route des Flandres, c'est un texte
par lequel
on pourrait commencer.
Bon, peut-être. Hein, Sylvain Prudhomme y a bien réussi dans ses jeunes années à la fac.
Oui, mais peut-être parce que il y a beaucoup de l'histoire de la guerre et tout ça qui fait que c'est peut-être un peu plus distancié. Je sais pas. Moi, j'adore La Route des Flandres, mais je peux comprendre que on se sente plus à l'aise avec un texte comme L'Herbe, ou qui est un des premiers sur la mort de sa tante, qui est sublime, qui est magnifique, ou bien parmi les plus récents, comme je disais, L'Acacia ou le Tramway. Voilà. Donc
on glisse des petits conseils de lecture et méthodologiques. On va écouter Louis, auditeur du Book Club, qui nous interroge et vous interroge peut-être plus spécifiquement, Mireille Kalgruber, sur le refus d'abord de Claude Simon de voir publier ses romans de jeunesse.
Bonjour le Book Club, j'ai lu La Corde Raide de Claude Simon aux éditions de Minuit. J'ai beaucoup aimé découvrir les esquisses, les balbutiements d'un style qui aboutiront avec Le Tramway et L'Acacia, qui sont des livres que j'adore. Et ma question est en rapport avec ça. Je me demandais, Mireille Kalgruber, pourquoi avoir décidé de publier La Corde Raide alors que Claude Simon était contre? Est-ce que parfois, comme dans le cas de Kafka, l'éditeur doit aller contre l'auteur? Est-ce que finalement le plus important c'est l'histoire littéraire? Merci pour votre réponse.
Merci Louis pour cette question.
Oui, merci beaucoup, parce que c'est effectivement la question cruciale que je me suis posée, vous vous en doutez. Et d'abord, c'est un hasard, mais que vous vous appeliez Louis, c'est intéressant, puisque c'est le nom d'un personnage de ses romans, et aussi du père de Claude Simon. Donc, il n'était pas contre. Il faut dire qu'il n'était pas contre la réédition. Il a préféré ne pas rééditer à un certain moment parce que il craignait ce qui effectivement se disait, que ça serait plus accessible, peut-être pas plus facile, mais plus accessible de lire un roman plus romanesque. Encore que je pense que Le Tricheur est pas, s'il y a des personnages, il n'en reste pas moins qu'il y a énormément de descriptions, énormément, le récit avance par précisément tout un rapport olfactif, sensuel, tout un univers qui n'est pas du tout de l'ordre de l'histoire qu'on raconte de A jusqu'à Z. Mais en tout cas, ensuite, et dans plusieurs entretiens qu'il a donnés à différentes personnes, il dit bien que ces deux premiers romans sont quand même les romans dans lesquels il va puiser tous ses motifs.
Ah oui.
Il le dit. Mmh. Il dit, je n'ai pas cessé de puiser.
Parlant du Tricheur et de La Corde Raide.
Oui, exactement. Et en effet, on trouve absolument tous ces livres en germe. C'est incroyable. On trouve La Guerre d'Espagne, ça va donner Le Palace. On trouve Stanislas, donc Le Collège. On trouve La Mort de la Mère, La Mort du Père. Tout ça, ça innerve plein de romans, à commencer par L'Acacia et puis Le Tramway aussi. Bref, sans arrêt, il a été, au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le peintre qui est sur le motif.
Et qui revient au noyau.
Et qui revient au primordial, à tout ce qui est premier. Et donc, à un certain moment, Claude Simon m'a dit, puisque j'ai eu la chance de travailler avec lui sur ses archives, et du fait qu'il me demande ensuite d'être son ayant droit moral, il m'avait confié la possibilité de publier, mais à la condition que ses livres livre fasse partie de l'ensemble. Mmh. Ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il soit publié à part, même chez un autre éditeur, et qu'on dise « Ah, voilà, ça c'est les premiers, les romans de jeunesse, d'une manière soit dépréciative, c'est les balbutiements, soit en disant « Ben voilà, c'est le, il n'a pas encore trouvé son style. » Donc non, pour lui, et c'est très étonnant de voir comme cet écrivain a aussi beaucoup d'humilité vis-à-vis de l'écriture, il dit « Chaque fois que j'écris un livre, je ne sais pas où je vais. » Je pars de rien, mais j'apprends. Et comme il a dit, le roman, je le fais, il se fait, il me fait. Et donc, chaque fois, je suis transformée et surtout, j'ai une expérience avec laquelle je vais écrire, je comprends ce qui s'est passé. Parce qu'il dit aussi, ça c'est la leçon de Raoul Dufy, encore un peintre, il faut savoir abandonner le tableau qu'on voulait faire pour celui qui est en train de se faire.
Oh là là, putain, on va apprendre à vivre avec cette émission. Et oui, j'adore, j'ai dit un gros mot au passage alors que vraiment, normalement, je dois pas. Sylvain Prudhomme, Louis, notre auditeur disait quand même le plaisir qu'il y a de voir un style en germe, une écriture quand même en train de naître. Vous qui écrivez, est-ce que ça vous a intéressé cet endroit-là, l'idée quand même que même si à chaque fois Claude Simon apprend à écrire, là il est au début de son apprentissage.
Oui, bien sûr, c'est passionnant à lire La Corde Raide pour ça aussi. Donc c'est vrai, déjà j'étais fasciné par le fait qu'on trouve, comme disait Mireille, presque tous les noyaux, enfin tous les motifs qui après reviendront, ils sont là. Et ce qui est passionnant, c'est qu'ils sont énoncés, ils sont exposés comme ils le seront plus jamais à la première personne, avec un jeu qui s'assume comme autobiographique. Donc on a comme le matériau originel qui
presque
est là,
brut,
qui est presque brut en fait. Donc on voit à partir de quoi il va travailler dans toute la suite. Et il y a aussi, il énonce en première personne avec quelque chose de très explicite aussi, toute une conception, tout un regard sur le monde, sur la condition humaine, sur la solitude de chacun. Et c'est des choses qu'après il fera plus jamais parce que ça sera complètement incorporé à aux descriptions, aux portraits qu'il fera. Tout ça passera dans l'écriture. Et là, il monte sans cesse sur les planches pour aussi donner ses...
Mais d'ailleurs, il le regrettera un peu, ce ton-là. J'ai lu un passage d'un entretien où il dit « Je regrette le ton que j'ai dans ces textes-là parce que c'est presque trop volontaire à son goût, trop affirmatif. »
Je pense,
en même temps,
oui,
il a 30 ans, c'est impossible de le faire, non ?
Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était un... surtout juste après la lecture du Tricheur, il y a quelque chose d'incroyablement... une conquête gigantesque dans l'affirmation de soi, je trouve, dans l'affirmation d'un regard, d'une subjectivité, d'un vécu qui est posé là, il n'arrête pas de dire... Enfin, de s'en prendre presque à enfin, en gros, c'est au moutonisme de l'époque, quand il dit... bon, en gros, pour pas être seul, il faudrait arrêter de penser. Enfin, il affirme comme ça, il s'affirme comme individu très très fort. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, oui, c'est le quel geste, quoi, quelle sortie du bois. Enfin, après il reprendra tout ça en l'incorporant beaucoup plus intimement à son écriture, mais c'est très très beau de voir naître tout ça.
On va continuer à parler de La Corde Raide de Claude Simon juste après cette chanson de Bertrand Belin qui chérit nos cœurs adorés des choses nouvelles.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur adoré. La nuit je parle seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur adoré, contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu songe en tout sommeil, mathématique des grues. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit, je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'accord de Red, aujourd'hui dans votre book club. Claude Simon a un peu plus de 30 ans quand il commence d'écrire ce texte. La Seconde Guerre mondiale est tout juste terminée et l'on peut dire qu'elle est fraîche, comme on le dit, de la peinture. Elle colle encore à ces mots, comme colle encore le désir pour une certaine Vera, la lumière, de l'eau, des souvenirs, les bruits et les couleurs d'une ville, Barcelone, les cris d'une femme qui donne la vie et le vertige peut-être surtout d'écrire et de vivre. Magma poétique dans lequel Claude Simon coupe et monte. Pour la première fois, la corde raide, ce texte et Le Tricheur, un autre texte, sont réunis aux éditions de Minuit. On en parle avec vous, Sylvain Prudhomme, et avec vous, Mireille Kahl-Gruber. Est-ce qu'il faut dire quelque chose avant d'entendre un premier extrait? Quelque chose qui serait, ah, horreur, un résumé du texte?
Non, ça se résume pas.
D'accord. Bon, voilà. Comme ça, on va tout de suite dans le texte.
Il vaut mieux aller tout de
suite
dans le texte.
Allez, on va tout de suite dans le texte avec un premier extrait.
Je crois que j'aimais véritablement Vera. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il y avait eu un moyen quelconque pour moi de prolonger mon séjour en Russie ou de l'emmener. J'ai rêvé d'elle des années après. J'ignore si le fait de rêver d'une femme, 4 ou 5 fois par an, pendant plusieurs années de suite, peut constituer une certitude en ce qui concerne votre amour pour elle. Je me demande d'ailleurs ce qui peut constituer une garantie au sujet de l'amour qu'une femme peut vous inspirer. Je crois en fait qu'il n'y a aucune garantie. Vous pouvez avoir la certitude, par des signes infaillibles, que vous aimez l'alcool, la peinture ou la musique, et que vous les aimerez toujours. Pas une femme. Je parle de l'alcool, de la peinture ou de la musique, parce qu'il n'y a que, et peut-être aussi, certaines qualités de lumière à certaines heures, qui puissent vous donner ces moments d'exaltation où la tête vous tourne un peu, où vous avez l'illusion de dépasser les limites de votre corps et de votre esprit, et où tout paraît merveilleusement beau, merveilleusement facile et léger. Ce n'est pas souvent que l'on peut arriver à sortir de soi. Je pense que chaque homme est seul, qu'il soit ouvrier, bourgeois ou intellectuel, quelles que soient les amitiés, les camaraderies ou l'amour qui l'entoure. C'est tout seul, irrémédiablement, qu'il s'achemine, chargé de son passé, qui n'appartient qu'à lui, inaliénable vers sa mort, qu'il devra affronter seul. J'ai vu des gens mourir de maladie ou de vieillesse, au milieu de ceux qu'ils aimaient et avec lesquels ils avaient cru partager leur vie. J'en ai vu d'autres agoniser dans les fossés des routes ou sur les champs de bataille, râlant pendant des heures sans personne auprès d'eux. J'ai compris que de toute façon, c'était la même chose et que de quelque manière qu'on meure ou qu'on vive, on était seul. Il n'y a rien d'aussi désespérant que de voir les personnes que vous aimez se détacher de vous avec indifférence, vous repousser et s'enfoncer en eux-mêmes, au moment où ils ont compris que l'heure de leur mort est arrivée, et que tout ce qu'ils ont fait jusque-là pour se dissimuler leur solitude n'était que tromperie et mensonge.
Certes, Claude Simon n'est pas un gamin, mais il a l'air sage pour un homme de 30 ans. Il a l'air d'avoir compris beaucoup de choses dans le texte introductif que vous faites à ces deux romans de jeunesse. Mireille Kahl-Gruber, vous parlez de ses intimes enseignements. Et je trouve qu'on y est avec cet extrait de La Corde Raide, Temps sur le désir, qui reste une question, mais qui reste extraordinairement vivant quand il évoque Vera. Et pour moi, c'est comme s'il avait le même désir pour Vera, cette femme vraiment en chair et en os, que pour la lumière sur la mer et la mer.
Oui, c'est extraordinaire comme on a déjà là tout le souffle de Claude Simon qui part d'une chose minuscule, c'est-à-dire la lumière. Si on regarde dans ses, même ses premiers romans, mais dans tous ses romans, les descriptions de lumière, transparence, obscurité.
Une qualité de lumière à une certaine heure.
Il a, c'est à la fois le photographe qui parle, parce qu'il a fait une œuvre photographique magnifique aussi, que celui qui, comme il dit, la vie m'impressionne, mais l'impression au sens de la pellicule, exactement. Hein. On a tout à fait ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière qu'il a de partir de quelque chose donc d'infime, d'à peine touchable, et d'arriver au cosmos, d'arriver à l'appartenance cosmique, organique, avec le monde entier.
Et à la solitude extrême, on l'entend là aussi, dans la fin, c'est-à-dire qu'il commence par Vera, ce reste sentiment amoureux, sa grande incertitude aussi, il semble, Sylvain Prudhomme, on lisait dans un article pour préparer cette émission, qu'une des choses qui vous avait touché dans la littérature de Claude Simon, c'est comment il se servait de la littérature pour poser des questions et ne pas y répondre. Bah, il continue à nous dire, qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est de rêver d'une femme pendant... Est-ce que ça nous donne des garanties? Bon, probablement pas. Et puis il arrive jusqu'à la solitude extrême, la manière dont, au seuil de la mort, chacun, chacune retrouve cette solitude-là, c'est quand même, c'est bouleversant.
Oui, je trouve que c'est très beau la façon dont il se met dans l'état d'écriture, et pour lui un état de disponibilité, d'ouverture aussi grande que possible à tout ce qui va remonter, revenir. Et c'est vrai que ça donne cette écriture, là, ce livre très qui vagabonde un peu, qui glisse comme ça d'une pensée à une autre. Et dès le début, c'est très très beau le début. En fait, c'est, autrefois, je restais tard au lit et j'étais bien. Je fumais des cigarettes, jouissant de mon corps étendu, et je regardais par la fenêtre les branches d'arbres. Et en fait, c'est quand même tout un programme de commencer le livre comme ça.
Quand on sait qu'il termine le texte où des branches lui pousse à son corps, et d'un seul coup, il ne regarde plus l'arbre, mais il est lui-même.
Il est là. Il est la sève. Il
et
est
c'est
pas.
Vraiment un, écrire, c'est essayer d'être dans cette écoute la plus aiguë possible de tout ce qui va remonter, en fait. Et c'est vrai que ça remonte au présent, en fait. C'est très important, ce que disait tout à l'heure Mireille, c'est du coup la phrase sans cesse, on la voit qui cherche, qui tâtonne, qui trouve chemin faisant, là, au moment où il est devant sa page, en fait, et ça fait que c'est ça qui fait que tout est vivant. C'est pas comme s'il avait prévu de raconter, c'est vivant parce qu'il le rééprouve au moment où il écrit.
Dans le passage lu par Jeanne Aléos, il y a l'idée de, il y a le verbe ignorer, il y a l'idée de chercher et ne peut-être pas trouver des garanties. C'est-à-dire que finalement, tout à l'heure, vous disiez aussi, parlant de votre découverte des textes de Simon, Mireille Kallgruber, j'ai vu une phrase qui rêve. Il y a une phrase qui dit je sais pas. Enfin, tout en disant je l'écris, et c'est solide. Regardez comme c'est solide, mais elle vous dit je sais pas.
Mais il écrit à Jean Dubuffet. Il faut désavoir, en un seul mot. Hein. Il revendique le désavoir. Il craint le savoir, parce que le savoir obnubile.
Mais tout de suite, parce que c'est quand même quelque chose que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un chemin d'aller vers désavoir.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison.
Quand même jeune pour acquérir cet endroit-là, non? Je sais pas.
La différence,
vous souriez, Sylvain.
La différence, c'est que quand vous disiez il a une grande sagesse alors qu'il est jeune, mais c'est pas la sagesse au sens de... c'est pas des concepts. C'est, il le trouve, comme disait Sylvain, sur la page, par les mots, par la jouissance des sonorités, des rythmes.
Que vous appelez les intimes enseignements dans votre texte de présentation.
Je pense que c'est important de rappeler que le livre commence avec la jouissance.
Ouais.
Il y a du jouissif tout
et
le temps.
Et un corps étendu, enfin, c'est vraiment...
Un corps qui a l'extension de l'univers, du cosmos. Et il parle toujours le corps de la Terre et le ciel étoilé. Quoi. On est dans cette sorte d'extase aussi.
Et alors, dans cette érotique, on va dire un peu générale, Mireille Kallgruber, quelle place tient l'érotique plus charnelle, le rapport à Vera, qui arrive assez rapidement dans le texte? Il y a quelque chose quand même d'un désir, bien sûr, cosmique, mais quand même là un peu concret,
extrêmement physique, absolument. Tout le côté sexuel n'est jamais édulcoré chez lui. Au contraire, on lui a même reproché parfois d'avoir des paroles trop crues. Mais il parle de coït, il parle de scènes de coït de façon non pas. Alors il a d'ailleurs écrit là-dessus. J'ai trouvé dans ses manuscrits, il dit je suis mal à l'aise parce que je veux pas tomber dans la vulgarité, je veux que ce soit
proche du réel,
proche de la réalité, mais sans que ce soit vulgaire. Et il dit en français, les mots sont souvent très vulgaires, donc c'est très difficile d'arriver à un équilibre. Mais surtout, ce que je trouve génial que vous ayez insisté sur le côté de Vera, c'est que non seulement on retrouve cette Vera dans l'Acacia, où il reprend
un autre texte.
Toute l'histoire, un texte donc beaucoup plus tardif, 89. Mm-hmm. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que alors qu'il allait mourir, disons, après avoir écrit Le Tramway, il a recommencé à écrire, et que c'était Vera.
Et qu'il comme a écrit... quoi, quand il écrit, est-ce que ça veut dire quelque chose de rêver d'une femme pendant quelques années? On a envie de dire Claude, j'ai l'impression qu'un petit peu quand même.
Donc c'est assez extraordinaire. Mmh, et ces 50 premières pages qu'il a écrites, il les a trouvées pas bonnes. Et il a dit, ben Vera est partie en petits morceaux. Mmh. Il a tout déchiré. Mais c'est quand même superbe que vous ayez, vous ayez sorti ce motif-là.
Mais parce que ça revient à ce que disait tout à l'heure Sylvain Prudhomme, c'est-à-dire en fait, on sent la nécessité. Mmh. On sent quand un texte s'élabore sur une nécessité. Donc probablement que nous nous sommes arrêtés, Jeanne et moi, sur ce texte-là, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui y bat fort, d'une certaine manière. C'est ça qu'on reconnaît.
Et qui reste énigmatique. Qui reste pour lui énigmatique. Il n'a jamais, vous le disiez tout à l'heure tous les deux, il pose des questions, mais il n'y a jamais de réponse.
Il y revient pour se demander pourquoi.
Mais bien sûr, il y a toujours, et c'est sans fin.
Et ça, je me rappelle que c'est une des choses, moi, qui m'avait énormément frappé quand j'ai découvert ces textes, c'est par rapport à cette sagesse, enfin, c'est l'acceptation du fait que ça n'a pas de sens, du fait que. Bah oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. La balle, elle a frappé le compagnon juste à côté, pas moi. Et là, il y a beaucoup de scènes qui montrent les hommes aussi dans ce qu'ils ont, les humains dans ce qu'ils ont de la dérision de leur
fragile,
tout ce qu'ils ont de dérisoire, de fragile. De, ils s'agitent comme des. Très souvent, il y a l'image du pantin, du
mais
mannequin.
Mais pour autant, en tout cas, pour ce que j'ai compris, je vous laisse finir. Pardon.
Non, et avec du coup quelque chose qui, à la fois, il y a une célébration de la beauté de toutes ces illusions, de toutes ces jeux, toutes ces quêtes dans lesquelles les humains se lancent, le désir, et très fort aussi, il y a un regard distancié sur ça, et aussi sur le sexe, par exemple, qui effectivement parfois est décrit de façon très très animale, très on alterne des moments où d'empathie absolue, de où on est dans la sensation pure, et de moments où on reprend du champ et on se voit aussi minuscule dans l'immensité du
mais
monde.
Mais jamais il ne s'abandonne à l'idée d'un destin ou d'une passivité, en tout cas dans la corde raide. C'est-à-dire qu'à tous les moments où justement c'est la corde raide, il y a d'ailleurs à un moment donné l'arrivée de l'image d'un cirque et d'un homme qui paye sa place tous les soirs pour voir l'acrobate tomber, il répond à ça faire. C'est-à-dire que peut-être ça n'a pas de sens, peut-être on n'est qu'un tout petit truc dans le cosmos, peut-être qu'on est dérisoire, que notre existence est dérisoire. Néanmoins, notre travail, c'est de fabriquer, faire, désirer, vivre, regarder. Il ne s'abandonne pas à l'idée que de toute façon, on n'est rien, ça n'a pas de sens, donc voilà.
Non, pas du tout. Et par exemple, il y a des pages vraiment extraordinaires, magnifiques, là, sur les anarchistes espagnols en 36, où il commence par dire des choses dures, hein. Je ne crois pas qu'ils firent rien de bon, ni rien d'utile. Donc ça commence par les charges, et ils racontent toute leur théâtralité. Et en fait, après, ils les sauvent complètement en disant, mais en fait, quoi d'autre que ça, en fait, de toute façon Et ils racontent aussi qu'ils flamboient jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à se prendre un platane, peut-être, à mourir bêtement, parce qu'ils sont allés trop vite. Et il y a toute cette tension, entre l'absurdité et en même temps la splendeur de tout ça.
Splendeur, justement, on y vient. À la fin du texte, moi, il m'a semblé qu'il y avait encore plus de vertige, mais là, au sens du mélange des sensorialités. On écoute un deuxième extrait.
Les bruits et les couleurs se mélangent. Celui du camion qui dure, obstiné, sur toute la longueur de l'avenue, et celle des maisons d'en face, lilas, orange, gris, et celle des arbres comme des plumeaux noirs. Ils entrent tous et traversent les murs avec des drapeaux qui claquent tout en haut de leurs hampes. Et le lion vert de gris majestueux. Et le carrousel tintamarresque des voitures autour de lui. Et le train électrique de banlieue qui s'en va dans le bruit glissant d'électricité. Plein de types qui lisent les journaux du soir, debout, cahotés, avec ensemble. Tout s'embrouille et s'interpénètre. Et ils passent à côté de mon lit sans s'excuser. Et ils jouent leur musique en arc-en-ciel, assis sur ma table. Et des avions passent en grondant à travers ma tête, à travers les vitres, à travers les fleurs qui sentent. À cause de tout ça, je ne suis pas moi. Je peux sentir la ville. Elle a une odeur de bruit et d'agitation, immobile et mouvante comme la mer. Elle ne dort jamais. Moi, je dors. C'est ainsi que je puis être le plus fort et que je peux me retrouver moi, me retrouver ma vie, mes rêves et le rêve de mon passé, qui n'existe pas autrement. Réveillée, je regarde dans la glace une figure végétale. Végétale comme un tronc d'arbre, un idiot, un train. Est végétal tout ce qui pousse au hasard, dans les plaines ou les villes de pierre. Tout ce qui vient et puis s'en va. Je pense à toutes les choses qui arrivent et qui disparaissent, qui ont un commencement et une fin, à une heure bien déterminée, et qui ne pensent pas par elles-mêmes. Il y a le commencement et la fin d'un homme. Le commencement et la fin d'une guerre, d'une machine à écrire, d'une fourmi. Une ville, un tableau, un livre, un caillou, le ciel, l'eau, vous n'en finirez jamais. Ça n'a ni queue ni tête, ni droite, ni gauche, et ça pense. Plus qu'une figure d'homme, plus qu'un homme.
Cette fin de texte, quasi la fin de la corderette qu'on vient d'entendre dans la lecture de Jeanne Aléos, moi, m'a stupéfaite, parce que je me suis dit, après avoir écrit ce texte-là, il parvient à écrire comme presque un amendement à son texte, où il reprend le texte, et il dit presque ce qu'il vient de faire, quoi. Je sais pas comment dire. Un ciel, un homme, un livre, une guerre, vous n'en aurez pas fini. En fait, c'est plus qu'une figure d'homme, c'est plus qu'un homme. Je sais pas. Je trouvais ça incroyable.
Oui, c'est par fragments, mais tout est ensemble, et ça ne fait pas un puzzle, ça n'est jamais fermé.
Et ça pense.
C'est toujours en extension, et ça pense, mais ça pense parce que il y a ce travail d'assemblage. C'est pas la pensée d'abord.
Non.
Ça vient en plus, ça vient parce que toutes ces tensions, toutes ces vitesses, toutes ces tensions, c'est effectivement le ton, toutes ces tonalités différentes, qui soient aussi bien de la peinture, on voit bien là toutes les couleurs, les camailleux. Et je trouve que ça, c'est effectivement, ce texte annonce déjà tout.
C'est presque manifeste, moi, je trouve. C'est-à-dire que là, par exemple, on commence par l'image d'un homme qui, voilà, se lève tard et au lit, il fume, je sais pas, en tout cas, il jouit de son corps, il regarde un arbre, bon. Et à la fin, il est presque drôle. Il dit tous ces gens qui passent à côté de moi, ces camions. On a presque l'impression qu'il décrit son corps écrivant. Vous disiez tout à l'heure, Simon,
il est traversé,
ouvert à tout, mais on a l'impression qu'il a presque un plan de lui, comme ça, de haut, où il vient d'écrire, quoi, où il a écrit.
Oui, moi aussi, ça me frappe énormément. Il y a quelque chose de rejoindre presque le cosmos.
Ouais.
Enfin, la figure qu'il a beaucoup employée pour décrire l'écrivain, c'est celle d'Orion aveugle. Enfin, et donc là, il y a toujours cette tension, parce que plein de fois, il dit dans le texte, par rapport à toutes les illusions qui peuvent être celles de la vie, il dit pour l'instant, je veux voir.
Ouais.
Il n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il. Tout son travail, c'est d'essayer de voir.
Quand même, hein.
Et en même temps, l'image qu'il emploie sans cesse, c'est celle de la cécité. Enfin, on écrit à l'aveugle, on avance dans le magma des sensations. Et donc, moi, je trouve ça assez bouleversant, cette tension entre l'effort, la volonté de voir, de comprendre, et l'aveu d'impuissance, l'aveu que tout sera jamais éparpillé, et que soit on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais. Enfin,
on ne corrige pas le hasard. Comme il a dit, le tricheur, c'est tricher, c'est corriger le hasard. Et il dit, on ne corrige pas le hasard. Il le dit, il donne la réponse dans la corderette. Il dit, je prends tout. Je prends tout, et en fait, je me laisse prendre partout, je me laisse saisir partout, et effectivement, accueillir tout ce qui vient, voir ce qui touche, donner à voir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en effet, il arrive par les formes d'écriture à transmettre, parce que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à transmettre au lecteur ses sensations et ses émotions par le souffle de la phrase et par ses découpages.
C'est animé par quoi? Il est beaucoup trop tard pour qu'on pose cette vaste question, mais ce désir de transmission, il est animé par quoi chez Claude Simon?
Alors, il y a une très belle phrase de lui qui est une vraie profession de foi. Il dit, dès que l'humanité ou l'humain s'est modifié, chaque fois qu'un écrivain ou un peintre ou un sculpteur a modifié, a trouvé tant soit peu une
Mais c'est dans la corde raide. C'est dans la corde raide aussi qu'il dit
mais
ça.
Mais il le dit, il l'a dit des tas de fois, et il le dit encore dans une lettre lorsqu'il revient de l'URSS en 1988. Voilà. Et il dit, il l'a dit notamment dans un texte qui s'appelle Le rôle amoral de la culture. Et il dit, même l'illettré qui ne lira jamais Joyce, Rimbaud, Flaubert, ne vit pas de la même manière
après que Rimbaud et Joyce,
Rimbaud, etc., ont vécu. ont existé. Donc c'est énorme. Ça veut dire que voilà, on peut changer. Il est persuadé que par l'art, par la littérature, par l'écriture, par ce travail, il faut pas oublier que il y a un travail acharné de Claude Simon.
Oui, on avait choisi une archive qu'on n'a pas le temps d'écouter.
Si vous voyez ses manuscrits, mais il faut aller voir ses manuscrits à la bibliothèque.
Je suis de ce côté de ceux qui travaillent avec acharnement, dit-il. Ouais, oui. Le travail.
Il met 8 ans, 10 ans, 12 ans pour écrire Les Géorgiques, 8 ans pour Le Jardin des Plantes, alors qu'il m'avait dit, tu vois, là, j'ai fini, ça fait 4 ans. Non, il recommence. Et si vous voyez ses manuscrits, c'est vertigineux. Et il les a gardés, et il les a donnés parce que il tient à ce qu'on voit ce travail. C'est pas donné d'avance, c'est pas l'inspiration, mais c'est véritablement cette attache sur le métier.
Au boulot, le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Le travail joyeux, Nicole Vulser, toute l'année, vous avez été là pour nous, tous les mardis, pour éclairer un aspect économique du monde des livres, et vous le faites encore aujourd'hui, avec une figure très contemporaine, celle de l'agent littéraire.
Absolument. J'ai fait un peu de spéléologie pour retrouver l'introduction de l'étude réalisée par l'éditrice Juliette Jost en juin 2010, intitulée « L'agent littéraire en France, réalité et perspective » pour le compte de l'Observatoire du Livre. C'était violent. Je cite « usurier, chacal, parasite, amant adultère ». L'agent littéraire se voit souvent affublé de qualificatifs peu amènes, écrivait-elle, en cherchant à comprendre pourquoi les agents étaient si diabolisés par les uns et ont fasciné tant d'autres. Quand elle parle de chacal, il faut quand même un sous-titre. C'est le surnom de l'agent littéraire le plus redouté de la planète, Andrew Wiley, l'agent de Philip Roth, Salman Rushdie ou Orhan Pamuk, un prince florentin de la négociation financière. Encore aujourd'hui, alors que les agents littéraires constituent un maillon essentiel de la chaîne du livre dans les pays anglo-saxons sans que personne n'y trouve à redire, dans l'Hexagone, les éditeurs y voient souvent des concurrents. Longtemps, la France est restée le pays aux deux agents, avec la papesse du secteur, Susanna Lee, et le souverain, François Samuelson, également agent de star de cinéma, tous deux aux manettes depuis plus de 25 ans. Au fil des années, la profession s'est sérieusement étoffée et l'on compte aujourd'hui une cinquantaine d'agents littéraires, parfois d'anciens éditeurs, selon le dernier décompte de Loïc Zion, délégué général du syndicat français des agents artistiques et littéraires. Une précision, il n'existe pas de statut qui encadre cette profession non régulée.
Et alors, qu'est-ce qu'ils apportent ou qu'est-ce qu'elles apportent aux auteurices, ces agents ou agentes ?
Ils les défendent apparemment pas si mal, puisque plus de 200 auteurs et autrices ont des agents aujourd'hui contre 350...
800 du coup.
Pardon, 800. Voilà, 800 auteurs et autrices ont des agents contre 350 il y a 4 ans. Merci Marie. Moyennant 10%, 15% ou 20% selon les contrats signés, ils négocient pour les auteurs en leur faisant gagner davantage que s'ils négociaient seuls face à leur éditeur. Les agents travaillent aussi, comme Susanna Lee, à l'international, elle a 3 bureaux à Paris, Londres et New York, pour que les livres soient traduits ou encore adaptés au cinéma ou dans des séries. On la croise donc au Festival de Cannes ou à celui de Venise. Selon Laure Péché de l'agence Astier Péché, je cite « En France, la situation entre auteurs et éditeurs est profondément déséquilibrée et les auteurs sont souvent très maltraités. D'une part, les contrats deviennent de plus en plus complexes, mais surtout, le contrat type du syndicat national de l'édition, devenu le maître étalon du secteur, est, assure-t-elle, truffé de clauses léonines qui sont à l'avantage des éditeurs. François Samuelson, l'agent de Emmanuel Carrère, Nathalie Azoulay ou Michel Houellebecq, ne dit pas autre chose. Les éditeurs proposent aux auteurs 8 à 10% du prix de vente de leurs livres, une fois que l'avaloir est remboursé. C'est ce qu'ils proposaient déjà il y a 30 ans. Quand le livre est vendu à l'étranger, une décote de 50% est pratiquée en défaveur de l'auteur. On lui demande aussi de payer des provisions pour retour si le livre n'est pas vendu chez le libraire. Si les éditeurs faisaient bien leur boulot, il n'y aurait pas de retour, tranche-t-il. Même si elles se sont apaisées au fil des années, les relations entre agents et éditeurs peuvent être encore difficiles, voire musclées avec Gallimard ou sa filiale POL. Certaines maisons refusent encore de travailler avec des agents, affirme de son côté Loïc Zion.
Et les grands mouvements capitalistiques dans l'édition, par exemple la reprise d'Hachette par le groupe de Vincent Bolloré ou celle d'Editis par Daniel Krasinski, ont-ils davantage incité les auteurs et les autrices à confier justement leur destin à un ou une agente ?
Dans cette instabilité capitalistique, les auteurs peuvent se trouver perdus, sans ancrage, témoigne Susanna Lee. S'il a un agent, il ne sera pas abandonné, même si son éditeur change de maison. Sa consœur Camille Paulian, cofondatrice de Tram, a récupéré des auteurs qui ne voulaient pas faire partie de la galaxie Bolloré. Chez François Samuelson, la veuve de Guy Debord a utilisé son droit de repentir pour la publication du dernier ouvrage des correspondances de Guy Debord, jusqu'alors tous publiés chez Fayard. Laure Péché constate quant à elle, je cite, que les super concentrations dans l'édition nous apportent des auteurs tous les ans. Et des auteurs de plus en plus jeunes qui souhaitent un accompagnement juridique et économique face à un éditeur.
Et je l'ai dit, c'est votre dernière chronique aujourd'hui, Nicole Vulsard.
Et oui, Marie, j'ai appris tout un tas de choses essentielles. Qu'on peut réussir à être à l'antenne malgré un train annulé, un métro subitement en panne, une extinction de voix totale, une bronchite carabinée, ou après un affreux cauchemar dans lequel on a oublié d'emporter sa chronique à la maison de la radio. Ou que toutes les imprimantes ont rendu l'âme. J'espère que vous n'avez rien
du tout.
En tout cas, ce fut un honneur et une joie. Un immense merci, Marie, à vous, de m'avoir laissé une totale liberté pour écrire ces chroniques pendant toute l'année, à Sabine Vespisseur qui vous a soufflé cette idée, et à toute cette si chère équipe du Book Club, Vivien Demeyer pour son soutien indéfectible, Jeanne Léos pour sa délicatesse, et bien sûr, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Louise Hoth, Oriane Mignot, Alexandre, Alain Begovic et Marianne Chassor pour leur constant et merveilleux soutien. Je tire ma révérence et je vous souhaite un très bel été, enfin du temps, beaucoup de temps, pour lire à loisir.
C'est nous qui vous remercions, c'était un délice de vous écouter, on a appris 1000 choses, c'était extrêmement précieux. Je demande à chacun et chacune d'aller écouter votre prose non sans humour. Économie du livre, franceculture.fr. Moi je vous dis à bientôt, c'est sûr. Le grand jeu des pages musicales, c'est la fin du Book Club. Chaque jour, on s'amuse à chercher de la musique dans les textes. Parfois, on confie ce jeu à nos auditeurs, auditrices. Là, on a joué tout seul avec le texte de Claude Simon. Pour elle, une femme qui ne travaillait pas devait être élégante et jolie. Elle ne concevait pas qu'une jolie fille travaillât. Mais elle ne concevait pas non plus qu'elle ne présentât pas cet aspect précieux et chatoyant d'une flatteuse inutilité. En quelque sorte, c'était un devoir. Si son lot, à elle et ses nièces, était de s'échiner à longueur de journée, d'autres, par contre, avaient pour fonction de plaire et de se faire servir. Elle avait le plus profond mépris pour les petites étudiantes mal nippées ou pour les jeunes femmes au difficile métier qui venaient manger chez elle. « Tout ça, m'affirmait-elle, c'est des putains, voilà ce que je dis, et tu peux me croire. » Une fille laide et pauvre qui faisait mal son travail ou une belle fille mal habillée étaient également des putains. Je n'essayais pas de l'en dissuader. Je sentais que j'aurais déchu dans son estime. Je pensais qu'un ami espagnol m'avait raconté qu'à Madrid, les gens du peuple grelottaient dans la neige pendant toute une nuit pour avoir la joie de pouvoir admirer, à la sortie des palais, les belles dames et les beaux messieurs. Là-dessus au moins, tout le monde est d'accord. Ouvriers et bourgeois, et j'imagine avec eux les champions de l'art non figuratif. Sans doute attendent-ils de la belle peinture, du bel canto, de la belle musique, ou du beau langage, qu'il leur apporte un élément idéal et gratuit, intentionnellement inutilisable. J'aime vraiment bien que cette émission se termine par ces mots intentionnellement inutilisables. C'est un plaisir fou de parler de ce texte, L'accord de raid de Claude Simon, avec vous deux, Mireille Kalgruber et Sylvain Prudhomme. Ce texte paraît avec Le Tricheur aux éditions de Minuit. Puis je rappelle le titre de votre dernier roman, c'est Coyote. Merci beaucoup à tous les deux, c'était super, vraiment. Au son, ils lisent le à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer et penser cette émission. Je ne fais pas le générique, Nicole Vulsaire l'a fait mieux que moi.